cours de philosophie éthique, l'éthique chrétienne, par le Père Marie-Dominique Philippe, le 5 février 1999 à Saint-Jeaudard.
Et c'est son œuvre. Et on ramène tout à quelque chose d'humain. C'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile à vivre. Parce que nous sommes dans un siècle positiviste et marxiste. Gog et Magog. L'union des deux. L'union du positivisme, qui est le point de vue scientifique, qui prend tout. Puisque même l'éthique, aujourd'hui, est mesurée par la science. Elle ne le dit pas, mais c'est de fait ce qui existe. Le progrès scientifique voudrait universaliser l'éthique humaine, la dépasser, en s'appuyant sur la science. C'est extrêmement curieux. C'est, d'une certaine manière, l'antithèse des béatitudes évangéliques. Et c'est l'esprit de pauvreté qui peut seul nous permettre de dépasser cet esprit positiviste et cet esprit marxiste. Je crois que les deux se tiennent et se concrétisent dans la puissance, la technique, l'esprit de pauvreté qui nous permet de ne pas être positiviste, c'est-à-dire de mettre en premier les résultats, les faits, et de maintenir un esprit divin. Cet esprit de pauvreté qui nous empêche de devenir les propriétaires du monde, être maître du monde. Cet esprit de pauvreté, de fait, va impliquer un esprit de douceur. Au niveau de la charité fraternelle, si je suis pauvre, mes relations avec le prochain sont toutes commandées par la douceur. C'est-à-dire, je respecte pleinement la vocation divine de mon frère, de ma sœur. C'est ce respect à l'égard de la vocation personnelle de chacun qui est sauvegardé par heureux les doux, parce qu'ils hériteront de la terre. La terre vint au service de la femme. Il faut hériter de la terre pour que la terre puisse venir au service de la femme. Et ceci exige un esprit de douceur. Et l'esprit de douceur ne peut se réaliser que dans la pauvreté. Autrement, ça devient mièvre. Va comme je te pousse. Et il n'y a plus aucune détermination. Toute détermination est supprimée. Parce que les déterminations viennent d'en haut, de Dieu, et non pas des hommes. C'est important de comprendre l'harmonie divine entre ces deux premières béatitudes, ces deux premiers esprits divins. La pauvreté à l'égard de Dieu, la douceur à l'égard du prochain. dépossédé. Le deuil, c'est cela, spirituellement. C'est d'être dépossédé. L'épouse a le droit sur son mari. Et c'est le droit le plus grand. Le mari a un droit sur son épouse. Et c'est le droit le plus grand. Le deuil supprime l'exercice de cette possession. C'est donc le deuil qui mettrait en nous la plus grande tristesse. La plus grande tristesse pour une épouse, c'est de perdre son époux. La plus grande tristesse de l'épouse, c'est de perdre l'époux. Tristesse est offerte à Dieu parce que autrement elle nous paralyserait. Rien ne paralyse plus que la tristesse. Et la tristesse la plus grande, c'est de perdre l'époux ou l'épouse. Cela met dans notre charité fraternelle une blessure irréparable. Dieu, l'Église permet le remariage, mais vous voyez bien, il n'est pas dit bienheureux ceux sont dans le deuil parce qu'ils peuvent se remarier. Non, c'est pas dit comme ça. Heureux ceux qui sont dans le deuil parce qu'ils seront consolés. Ah. On accepte cette tristesse humaine, elle est offerte pour que ce soit Dieu qui soit l'époux. Et il n'y a que lui qui peut alors consoler. C'est ce qu'il y avait dans la primitive Église. C'est que les veuves, et surtout les veuves, mais les veuves aussi, étaient considérées à la suite des religieux comme devant mener une vie totalement consacrée à Dieu. Le veuvage était comme Dieu qui vous rappelait à un don total. Et c'est vrai, quand on voit des veuves chrétiennes qui vivent vraiment leur veuvage chrétiennement, c'est exactement ce qui se passe. Elles sont comme libérées de l'époux pour être plus à Dieu. Alors cela peut exister même dans la vie religieuse. Si nos amitiés ne sont pas toutes pauvres, Dieu reprend l'ami. Et on est veuf pour être tout à Dieu. Parce que partie d'amour. Tu ne tolères pas que l'esprit de virginité soit abîmé par une amitié humaine. Il ne tolère pas ça. Et il fait par le fait même que l'ami disparaisse. Il y a des tas d'exemples de ça. Dans la vie des saints et dans la vie religieuse. Parce que c'est Dieu lui-même. Ici, le veuvage, c'est directement Dieu qui le fait. Heureux ceux qui sont dans le deuil. C'est Dieu qui s'en occupe parce qu'ils seront consolés. Et c'est Dieu qui les console. Et c'est Dieu qui les met dans ce veuvage. Donc vous voyez, cette troisième béatitude, c'est Dieu lui-même qui intervient pour que la première des béatitudes, celle des pauvres, soit parfaitement vécue. Et qu'elle soit vécue dans la force, parce qu'elle n'était pas assez bien vécue dans la douceur. Suaviter et fortiter. Si le suaviter de la douceur n'est pas vécu avec suffisamment d'amour dans la pauvreté, il y a le fortiter et c'est Dieu qui intervient. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice parce qu'ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice. C'est que on désire au-dessus de tout que la justice divine soit là pour faire que tous les liens d'amitié soient tout le temps purifiés et que la justice de Dieu puisse régner pleinement et réaliser l'unité. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Je crois que cette cinquième béatitude, vous voyez, qui, d'une certaine manière, peut être liée à la quatrième, la justice. Il n'y a pas de miséricorde sans justice. Il n'y a pas de justice sans miséricorde au niveau divin. C'est très, très important de se rappeler ça. On peut aller très loin dans la miséricorde, mais dès qu'on est responsable d'une communauté, il y a la justice qui doit être respectée pour la communauté. Toute communauté réclame une justice. Toute communauté chrétienne réclame une justice divine. On n'a pas le droit de sacrifier quelqu'un. On n'a pas le droit de déséquilibrer une communauté. La justice est là pour que chacun ait ce qui lui est nécessaire. Vous voyez, c'est là aussi où l'amitié humaine doit comprendre que l'exigence de la justice divine empêche les exagérations d'une amitié. l'amitié humaine. Je vous disais que l'amitié humaine est au-delà de la vie commune. Mais attention, il ne faut pas que l'amitié humaine désorganise la vie commune. Et c'est là où la justice divine joue. On doit sauvegarder le bien commun. Et au nom du bien commun, on fait comprendre que l'exercice de l'amitié doit, de l'amitié particulière, de l'amitié au niveau personnel et individuel, doit se soumettre à la béatitude de la faim et de la soif de la justice. C'est très important, ça. Et ça fait comprendre cette phrase de la petite Thérèse à Sœur Marie de la Trinité. Vous êtes ma novice préférée, mais je ne le montrerai à personne. Donc, la loi commune de la vie commune doit être observée pour que la justice de Dieu soit pleinement vaincue. Je n'ai pas le droit, au nom d'une amitié particulière, modifier la justice pour que chacun ait ce qu'il lui faut. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Et il y a là quelque chose de très important entre le point de vue de la faim et de la soif de la justice et le point de vue de la miséricorde. Je n'ai pas le droit de faire une miséricorde tout à fait particulière à l'égard d'un pauvre, si ce régime de pauvreté, si ce régime de miséricorde à l'égard de ce pauvre entame tant soit peu la justice, qui regarde l'ensemble, qui regarde le bien commun. Et c'est très curieux comme les béatitudes vont deux par deux. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Toujours. Et l'amour du prochain implique toujours le primat de l'amour de Dieu. Toujours. L'amour du prochain ne doit pas entamer l'exigence de solitude d'amour de Dieu. La miséricorde vient donner à l'exigence de justice une note tout à fait particulière des liens personnels. Si la justice s'imposait comme un absolu, la miséricorde ne pourrait plus s'exercer. Au nom de la miséricorde, il y a un dépassement de la justice. Mais il ne faut pas que ce dépassement de la justice empêche l'exercice de la justice. Et c'est pas commode. Et c'est très important, ça, pour la loi de vie commune. C'est même capital, ça. Et si, de fait, amitié. On voit beaucoup mieux ses misères, on voit beaucoup mieux ses faiblesses. Et alors, à cause de ses misères et de ses faiblesses, on risque toujours de ne plus voir que cela. Et être là comme un absolu. Ce n'est jamais un absolu. L'absolu, il est à l'égard de Dieu, dans la contemplation. Surtout pour une vie contemplative. Justice communautaire n'est pas la même que pour une vie apostolique. Dans la vie apostolique, la béatitude des miséricordieux joue un rôle capital parce que on ne peut vraiment exercer ce mal et revenir un lien plus fort. Et dans la miséricorde, j'enlève le mal de l'autre comme mon propre mal. Et donc, j'ai un souci de faire ce mal disparaisse le plus vite possible pour que la vie puisse s'épanouir. Le mal étant toujours comme une pierre tombale qui arrête et qui empêche la vie, qui empêche la spontanéité. Il faut avoir la possibilité d'intervenir le plus vite possible. Comme on intervient très vite quand c'est notre propre mal, il faudrait vis-à-vis du prochain qu'on intervienne avec la même rapidité. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Si je suis miséricordieux à l'égard de mes frères et de mes sœurs, cela joue sur la conduite de Dieu sur moi. Il me fera miséricorde. C'est extraordinaire de voir que Dieu mesure sa miséricorde sur nous en fonction de la miséricorde qu'on a pour les autres. Ça, c'est extraordinaire. Ça montre bien combien la miséricorde est précieuse aux yeux de Dieu et combien elle dénote le caractère propre d'une éthique chrétienne. L'éthique chrétienne est dépassée par ce souci de miséricorde. C'est là où vraiment l'éthique chrétienne est elle-même. Dans la miséricorde, on fait donc sien la misère de l'autre. Donc, pour que la miséricorde existe, il faut qu'on connaisse le mal de l'autre. Si on ne connaît pas le mal de l'autre, on ne peut pas être miséricordieux. Il faut connaître le mal qui est dans l'Église à propos des mensonges, à propos des manques de vérité, pour pouvoir être miséricordieux dans cette recherche de la misérie, de la vérité. Il faut connaître le mal et il faut faire en sorte que ce mal qu'on considère comme le nôtre, on mette toute son attention à le dépasser. La miséricorde consiste de la pureté du cœur, la béatitude de la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. C'est le don d'intelligence qui nous donne un cœur pur. Et comme c'est curieux, c'est le cœur pur et le don d'intelligence. Et le don d'intelligence, c'est de pénétrer le plus loin possible dans la parole de Dieu pour saisir les secrets de Dieu. Et c'est saisir ces secrets de Dieu qui nous permet d'avoir un cœur pur. Un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui est entièrement vrai. Qui ne cherche pas la dualité. La miséricorde, quand elle est divine, fait qu'on ne s'arrête pas au prochain. Mais ayant fait la miséricorde, tout de suite, on regarde Dieu. On se retourne vers Dieu. Parce que quand on regarde la miséricorde, quand on regarde ceux à qui on fait la miséricorde, on risque tout de suite de devenir des bienfaiteurs. Et être des bienfaiteurs, c'est mettre la main sur le misérable, sur le pauvre, et c'est dominer sur lui. Pour empêcher cela, il faut ce retour contemplatif pour ne plus regarder que Dieu. Et c'est pour cela qu'après la miséricorde, on a tout de suite le point de vue heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. C'est immédiatement l'aspect de la contemplation. Heureux ceux qui font œuvre de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Grâce à cette contemplation, on ne fait plus que l'œuvre de paix, sans du tout avoir la main mise sur tel ou tel, mais au contraire, c'est en faisant